Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce numéro exceptionnel de L'Ordre du Monde, votre podcast géopolitique préféré. Cette semaine, malheureusement, nous sommes sans Annalisa Cappellini, mais on la retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je suis ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où vous avez des milliers d'experts, de journalistes, d'acteurs, de PDG qui viennent du monde entier, de dirigeants politiques qui viennent phosphorer sur une thématique ô combien d'actualité, c'est comment naviguer dans un monde sans repères. Et donc nous, ici, dans l'Ordre du Monde, on va essayer de trouver une boussole ou quelques boussoles pour essayer de se repérer dans ce monde de plus en plus brutal, de plus en plus instable. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Charles Lichfield. Bonjour Charles.
Bonjour Mathieu.
Très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous dans l'Ordre du Monde. Vous êtes directeur adjoint du Centre de Géoéconomie de l'Atlantic Council. Juste pour nous expliquer déjà, l'Atlantic Council, c'est un think tank très influent, qui est basé à Washington, où vous vivez, hein, vous êtes franco-américain, et c'est un think tank qui œuvre pour essayer de tisser ou de renforcer les liens transatlantiques. Là, j'allais vous dire, vous avez du pain sur la planche.
Oui, beaucoup. C'est vrai que les relations transatlantiques ne sont pas forcément à la mode dans l'administration Trump, même s'ils reconnaissent que certaines solutions peuvent être trouvées avec des alliés. Mais je suis d'accord avec vous, je suis arrivé quand Biden était encore au pouvoir et notre influence, comme vous le dites, c'était beaucoup plus facile d'avoir des rendez-vous avec l'administration. Et je pense que de toute manière, puisque sous Biden il y a eu l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, forcément on réfléchissait en tant que pays allié de l'Occident, entre guillemets, et nos opinions étaient plus au goût du jour. Maintenant il y a du travail, mais on est encore reçu. Notamment dans le cadre du G20, les États-Unis ont la présidence du G20. On nous écoute, on essaye d'apporter des solutions. C'est pas toujours facile, mais on essaye.
Avant de rentrer dans le fond des sujets avec vous, pour bien comprendre votre travail et comment ça fonctionne, parce que on n'a peut-être pas forcément cette culture des think tanks ou des lobbies aussi forte en France, l'Atlantic Council donc est un think tank. L'idée c'est quoi au quotidien? Je crois que vous m'expliquez avant de commencer. Tous les think tanks influents à Washington, vous êtes tous en gros entre le Capitole et la Maison Blanche, très près. Et l'idée, c'est d'avoir des petits hameçons lancés un peu partout à la Maison Blanche, chez les congressmen, oui. Et de faire passer les messages pour lesquels vous battez au quotidien, quoi.
C'est ça. Donc il y a plusieurs think tanks, il y a plusieurs genres. Dans l'Atlantic Council, on est dans la famille des think tanks qui s'occupent d'affaires internationales. Donc on s'immisce un peu moins dans la politique intérieure, même si bien sûr ça nous intéresse et ça impacte sur notre travail. Mais on n'a pas forcément d'opinion sur la politique fiscale des États-Unis. Là où on peut être influent, on se doit de l'être, c'est comment les États-Unis doivent construire leurs relations avec des alliés et des pays qui ne le sont pas. Et même au sein des think tanks qui s'occupent d'affaires internationales, il y a plusieurs options, plusieurs tendances. Donc nous, on est dans ce qui est le plus classique, on est des atlantistes, on pense aux intérêts des États-Unis d'abord avec les alliés historiques, mais ensuite ça peut s'élargir, on travaille beaucoup avec le Japon, bien entendu, et on pense comment, avec des alliés, on peut bâtir des relations plus fortes pour pouvoir être plus résilient vis-à-vis des pays qui sont moins amicaux, par exemple la Chine. Mais il y a plusieurs tendances. Il y a des think tanks qui sont plus isolationnistes, par exemple, et qui pensent que les États-Unis devraient d'abord s'occuper de leurs intérêts avant de réfléchir aux alliés.
Là, on pense peut-être à la très puissante Heritage Foundation, notamment, qui est peut-être plus isolationniste. Donc, quand je vous entends dire que vous travaillez, vous, pour renforcer le lien transatlantique, allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais quand on voit la revue de sécurité nationale qu'a publié Donald Trump avec tout un chapitre sur l'Europe et où ils évoquent, c'est écrit noir sur blanc, un risque d'effacement civilisationnel. Est-ce que l'administration Trump ne casse pas tout ce que vous essayez de bâtir au quotidien avec votre think tank?
Je dirais que ça rend les choses plus difficiles, mais il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. Donc par exemple sur l'effacement civilisationnel, c'est quelque chose qui marque beaucoup une partie de l'administration Trump, qui est très à droite, très conservatrice, qui parfois peuvent être un peu provocantes, je dirais aussi. Mm. Et donc,
c'est très J.D. Vance, non ?
C'est très J.D. Vance. Ouais. Je dirais aussi que, au moins, ça veut dire qu'il s'intéresse à l'Europe. Donc, c'est pas forcément des opinions avec lesquelles nous sommes d'accord, mais ça permet d'abord déjà d'établir un dialogue sur, bon, vous voyez ce qui se passe en Europe, ça vous plaît pas, mais ça veut dire que vous vous intéressez au sort de l'Europe. Pourquoi c'est le cas ? Il voit un peu en Europe comme une espèce d'origine civilisationnelle aux États-Unis. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais demain, on célébrera le 250e anniversaire des États-Unis. Bien sûr, les États-Unis se sont construites en opposition face aux colons britanniques, mais avec l'héritage politique et aussi civilisationnel, culturel, qui fait qu'ils s'intéresseront toujours à l'Europe. Pas forcément de manière amicale, mais je pense que de toute manière, même des personnes très conservatrices et isolistes dans le système Trump s'intéresseront à l'Europe, auront des opinions sur l'Europe, même si elles ne sont pas toujours fondées dans les faits. Et nous, ça nous permet au moins d'établir un dialogue.
Donc, ok, les États-Unis s'intéresseront toujours à l'Europe. En même temps, s'il y a un point commun entre Barack Obama, Joe Biden et Donald Trump, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a un, c'est quand même le pivot vers l'Indo-Pacifique, qui a été opéré par Barack Obama. Et là, on voit que quel que soit, qu'on soit conservateur ou démocrate, aux États-Unis, à la Maison-Blanche, on vous dit que la priorité, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Indo-Pacifique. Donc on s'intéresse peut-être à l'Europe, mais l'Europe, elle arrive quand même en deuxième, voire troisième rideau, non ?
Oui, mais je dirais en partie, c'est naturel. Et moi-même, étant européen, ça a été aux États-Unis, j'aime que les relations transatlantiques aillent bien, mais je comprends tout à fait qu'on s'intéresse d'abord au principal adversaire et à la principale menace, c'est la Chine. Il est tout à fait naturel qu'une superpuissance comme les États-Unis voit venir la montée en puissance de la Chine et essaye d'y s'y préparer pour être plus résilient. Ils ne s'y prennent pas toujours très bien. Il y a une interdépendance économique telle que les États-Unis ne peuvent pas toujours dicter à la Chine, même si les États-Unis sont une énorme puissance militaire bien davantage que la Chine. Il y a plein de choses que la Chine peut bien davantage dicter aux États-Unis que inversement. Et donc, oui, tout ce qui se passe, y compris dans mes recherches, alors que je suis plutôt européiste, je suis obligé de m'intéresser à la Chine, je suis obligé de regarder à travers ce prisme d'opposition avec la Chine comment je peux trouver des idées qui peuvent intéresser les décideurs américains. Mais je dirais que d'abord, le pivot vers l'Indo-Pacifique, c'est grâce à ou à cause de la montée en puissance de la Chine. Mmh. Tout vient après.
Charles Lichfield, je rappelle, vous êtes le directeur adjoint du Centre de géoéconomie de l'Atlantic Council, un think tank atlantiste très influent à Washington. Vous êtes vous-même franco-américain. J'écoutais ici, aux rencontres économiques d'Aix, un professeur chinois très influent aussi, qui est venu de Pékin à cet événement à Aix-en-Provence. C'est le professeur Wang, qui est président du Center for China and Globalization, et qui expliquait tout à l'heure qu'il fallait désormais se projeter dans un monde bipolaire, ne pas en avoir peur, un monde dominé par la Chine et les États-Unis, et parler en fait d'une doctrine de dissuasion, un peu comme la doctrine de dissuasion nucléaire, mais qui marche aussi sur le plan commercial. Et il expliquait, pour essayer de rassurer le monde, que finalement, les États-Unis et la Chine, ayant chacun la capacité de pouvoir anéantir l'autre sur le plan commercial, eh bien finalement, ça nous offrirait une forme de stabilité et de prospérité. Est-ce que vous partagez cette lecture ?
Non, je ne la partage pas. Je connais bien le professeur Wang. On a participé à les tables rondes à la fois ouvertes au public et privées. C'est quelqu'un de très, très gentil, très amical, très souriant.
Mais ça m'étonne. Ça commence mal.
Ouais, mais ça m'étonne, mais ça m'étonne pas forcément qu'il présente les choses comme ça. La Chine, puisque les États-Unis sous Trump se comportent de manière un peu chaotique, un peu erratique, la Chine voit très bien son intérêt à dire que nous sommes devenus l'acteur prévisible. Certes, on est redoutable, certes, on a une puissance et notre compétitivité a détruit certains secteurs chez vous, mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Et ils savent très bien présenter les choses sous cet angle-là. Mais il faut aller regarder les choses un peu plus profondément. La compétitivité chinoise est en partie basée sur une innovation technologique. Je pense qu'il ne faut plus trop parler de vol de propriété intellectuelle. Ça, c'est une chose qu'on se disait en Europe pour se rassurer, aux États-Unis aussi. Maintenant, les Chinois savent innover. Ils sont très bons. Mmh. Mais ils ont aussi une compétitivité qui est fondée sur une manipulation des taux de change et sur un système social qui n'est pas à la hauteur. Et donc là, je pense qu'il faut entretenir un discours assez difficile, un discours de force avec les Chinois. Ce serait bien plus facile si les Européens et les États-Unis étaient alignés. Ce n'est pas encore le cas. Mais là, je pense qu'il faut se méfier d'un discours qui dirait de toute façon, s'il y a deux superpuissances et l'un annule l'autre, nous serons dans une espèce de stabilité. D'abord, la guerre froide n'était pas aussi stable que ça. Et puis, on parlait de dissuasion nucléaire. La dissuasion économique, c'est encore autre chose. Et ça, et ce que fait la Chine a des effets sur l'emploi en Europe, sur la stabilité et la sécurité économique européenne, qui, pour moi, sont assez néfastes. Donc, pour moi, il faut se méfier de ce genre de discours-là. Mais passe un peu pour la voie américaine au moins cette semaine-ci, alors que je me considère un peu plus européen que ça, mais bon, je me prête au jeu puisque j'ai été invité pour représenter un think tank washingtonien. Je veux bien avouer que la méthode américaine en ce moment puisse paraître assez rédhibitoire pour les Européens et assez difficile à lire. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de légibilité, assez difficile de coordonner comme Européens et Américains, c'est vrai.
Autre, Charles Lichfield, autre réflexion entendue ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Tout à l'heure, l'économiste Jean Pisani-Ferry qui explique que les États-Unis sont désormais fatigués d'être les assureurs globaux de la planète. Avec Donald Trump qui, lui, veut faire passer les États-Unis d'assureur global à prédateur global. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse ?
Ces gens que vous avez cités ne sont pas les seuls à le dire. Le Premier ministre Carney a aussi dit que les États-Unis sont passés de... Bon, d'assureur global, après, il ne faut pas oublier qu'il y avait certains intérêts, que les Américains servaient à être l'assureur global. Ça leur donnait un effet de réseau où ils se plaçaient au centre, notamment grâce au dollar. Donc ça n'a pas été que par sacrifice et par bonne volonté de la part des États-Unis. Ils ont aussi bénéficié de l'ancien système. Mais ce système n'est plus tenable. On passe
C'était
à un autre.
Intéressant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Je suis d'accord. Maintenant, on passe à quelque chose où effectivement les États-Unis se servent de cette hégémonie pour extraire une espèce de rente. C'est vrai. Donc il faut essayer d'éviter que cette situation devienne insoutenable. Il faut se trouver des marges de manœuvre. Parfois, ça passe par une espèce de fracturation du système de commerce global qui, sans doute, si on regarde ça comme théoricien économiste, va nous coûter cher. Mais je pense qu'on y est. Je pense qu'il faut davantage miser en Europe sur le marché intérieur pour un peu parer le fait que les États-Unis se servent de leur hégémonie et parfois en fassent une rente. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper. Parfois, ce n'est pas soutenable. Mais il faut essayer de se trouver des marges de manœuvre pour pouvoir taper plus fort à la table de négociation.
Charles Lichfield, Donald Trump n'est pas éternel. Xi Jinping non plus. Vladimir Poutine non plus. Hein, quoique on nous a rapporté, je crois, le Washington Post ou le New York Times nous rapportait qu'il y avait des discussions avec Poutine autour de greffes d'organes qui leur permettraient de vivre jusqu'à 150 ans. Bref.
Ils ont fait ces blagues, oui.
Ils ont fait ces blagues entre eux. C'était en marge d'un sommet en Asie. Ils ne sont pas éternels. Est-ce que, selon vous, la brutalité et l'instabilité du monde que l'on vit en ce moment repose sur le profil de certains dirigeants qui ont la nostalgie des empires ou qui ont cette personnalité-là, ou est-ce que c'est le symptôme d'une époque qui est comme ça, qui va au-delà des individus ?
C'est surtout un symptôme. Après, il y a certaines personnalités qui arrivent à dégager cette tendance-là de manière plus forte et de manière beaucoup plus haut en couleur, comme Trump. Mais je pense que c'est surtout un symptôme. Il faut aussi se dire que, et comme je le disais tout à l'heure, la guerre froide, ce n'était pas forcément une époque si stable que ça. On s'en souvient presque avec nostalgie, puisqu'il y avait une espèce de règle du jeu entre la puissance soviétique et les États-Unis, mais ce n'était pas ni stable, ni forcément bon pour la prospérité de plusieurs pays qui se sont retrouvés dans des guerres par procuration. Donc le système actuel, certes, il est beaucoup moins stable encore, mais c'est plutôt un retour à la norme. On a plutôt vécu dans une espèce d'exception, d'abord sous un système bipolaire, puis sous un système unipolaire qui n'a pas duré très longtemps. Et je pense qu'on revient plutôt à la norme.
Est-ce qu'on peut, on peut quand même parler de nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis ?
Je pense que ce n'est pas un angle de lecture qui est inexact ou idiot. Je pense que beaucoup de personnes qui travaillent les relations internationales de manière plus sérieuse et plus académique que moi vous donneront plein de raisons pour expliquer que ce n'est plus une guerre froide. Mais pour moi, ça ressemble à une guerre froide, mais avec des différences très saisissantes. Pendant la guerre froide, il y avait deux puissances militaires qui jouaient à peu près dans la même cour. Mais économiquement, il y avait très peu d'interdépendance. Il y avait un bloc soviétique qui commerçait à lui seul et un bloc occidental, avec bien sûr quelques pays tiers ou du tiers-monde. Maintenant, il y a une énorme interdépendance économique entre la Chine et les États-Unis. Même si le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis a baissé du fait des droits de douane, ça passe par des pays tiers. Et donc finalement, c'est les mêmes entreprises et c'est la même dépendance états-unienne vis-à-vis de la Chine. La Chine est aussi dépendante des États-Unis encore pour certaines technologies. Donc l'interdépendance économique est énorme, mais au niveau militaire, ce n'est pas comparable. La Chine n'a qu'une base à l'étranger, en Afrique, et les États-Unis sont encore dominants sur ce plan-là. Donc ce n'est pas comparable.
S'il fallait choisir entre la Chine et les États-Unis, qu'est-ce que vous diriez à des Européens qui choisiraient de se tourner vers la Chine, dans le sens où, face à la fureur de Donald Trump, Xi Jinping, quelque part, il offre de la visibilité. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis la Chine, c'est le pays de la planification. À 5 ou à 10 ans, quand il dit quelque chose, on sait ce qui va se passer.
La prévisibilité, c'est un avantage qu'ont les Chinois. Et donc, je pense que l'Europe n'a pas du tout tort de dire aux Américains, c'est nous, Européens, qui bâtissons notre propre politique vis-à-vis de la Chine. L'Europe a parfaitement le droit de faire ça. Enfin, c'est même bizarre que cela eût été une question aux États-Unis. Mais c'est effectivement, je me retrouve souvent à essayer d'expliquer à certains interlocuteurs américains pourquoi l'Europe a le droit simplement de choisir comment bâtir ses propres relations avec la Chine. Parfois, la question se pose, ce qui est peut-être assez grave. Pourquoi ne font-ils pas comme nous? Mais il faut être méfiant vis-à-vis de la Chine, comme je le disais tout à l'heure. La Chine a une stratégie économique qui vise à nous rendre entièrement dépendants de leur chaîne de valeur. On se disait plutôt il y a quelques années que ce n'était pas très grave, c'était surtout des chaînes de valeur où il y avait la valeur ajoutée n'était pas très haute.
Alors, c'est en deux coups qui contrôlaient les terres rares.
Maintenant, c'est partout. C'est les terres rares dont on est dépendant et ils sont maintenant très compétitifs sur les voitures, sur les machines-outils, partout. Là où l'Europe tirait encore son épingle du jeu. Mais très rapidement, on se rend compte que même en Allemagne, qui avait un excédent commercial, tout bascule très vite vers des déficits. Et donc là, il faut se méfier. Parce que la Chine veut nous rendre dépendants de ces chaînes de valeur pour ensuite pouvoir dicter la marche. Et ça, il faut en être très méfiant et se rendre compte que cette stratégie est là depuis très longtemps. Elle n'était pas très agressive maintenant. Mais il faut regarder comment la Chine se comporte vis-à-vis du Japon. Un voisin avec lequel ils ont eu beaucoup de problèmes, certes souvent causés par le Japon il y a longtemps. Maintenant, le Japon a plutôt un profil plus pacifiste, mais les Chinois, quand même, essayent de dicter...
La nouvelle première ministre Takaichi a quand même...
Elle a
quand même montré les muscles et elle a provoqué la fureur de Xi Jinping.
C'est une réaction par rapport à une Chine qui, elle, a des ambitions beaucoup plus agressives dans la mer vis-à-vis de Taïwan. Donc je pense que la première ministre japonaise avait raison de moderniser simplement le logiciel du Japon. Le Japon peut rester pacifique, mais quand même défendre ses propres...
Dans les mots, elle est sortie de sa doctrine pacifiste il y a quelques mois, en disant qu'elle pouvait intervenir en cas de...
Donc ça a pu être présenté comme des propos d'extrême droite en Chine et ici en Europe. Je pense qu'il faut adapter le logiciel du Japon, précisément parce qu'il faut regarder comment la Chine se comporte vis-à-vis du Japon. Le Japon est maintenant dépendant vis-à-vis des chaînes de valeur chinoises, et maintenant qu'ils sont complètement dépendants, n'ont plus trop d'alternatives, la Chine coupe les robinets. Et on profite pour le faire juste au Japon en se disant que les autres ne vont pas le constater. Non, il faut regarder de très près comment la Chine se comporte vis-à-vis du Japon et se préparer parce que la Chine pourrait nous faire la même chose.
Charles Litchfield, votre pays, les États-Unis, je rappelle, vous êtes franco-américain, va fêter, là au mois de juillet, ses 250 ans, les 250 ans de l'indépendance. À l'heure de cette fureur de Donald Trump, où en est la société américaine? Est-ce qu'il va y avoir une union? Est-ce que les Américains vont communier au-delà de leur division pour fêter ces 250 ans? Ou est-ce que... au contraire, c'est un symbole qui peut encore plus braquer les projecteurs sur les fractures de la société américaine.
Alors, je pense que vos auditeurs, vos téléspectateurs qui ont eu l'occasion de se rendre aux États-Unis récemment ont pu se rendre compte à quel point ça reste les États-Unis. Ça reste très cordial, les gens restent très polis. Et en général, le débat politique qui, lui, est devenu très polarisé, bien plus qu'en France, alors que déjà en France, il l'est, ça reste par écran interposé, soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux. Le pays lui-même, bien sûr, il y a des difficultés. Il peut y avoir des manifestations, encore que par rapport à la France, ce n'est pas vraiment des manifestations sérieuses. Trump peut envoyer des troupes dans certaines villes qu'il n'aime pas trop pour un peu polisser, fliquer et montrer qu'il est là. Mais vraiment, ça reste les États-Unis, ça reste un pays très cordial. Et donc j'espère que l'anniversaire de demain sera un événement un peu fédérateur. Je crains que par rapport au bicentenaire, donc en 1976, ce soit devenu quand même un peu plus polarisant. Trump en a bien profité pour mettre un peu sa marque de fabrique sur les célébrations, ne serait-ce qu'au niveau un peu esthétique. Les logos du 250e anniversaire, les constructions qu'on entreprend à Washington, c'est très Trumpien.
Les matchs de MMA à la Maison-Blanche.
Le match de MMA sur le South Lawn, la pelouse devant la Maison-Blanche, effectivement, c'est Trumpien.
Ça peut paraître...
C'est un peu moins fédérateur, c'est un peu plus polarisant. Je dirais que c'est dommage. Je pense qu'il y a encore des options et des choix d'événements qui peuvent être plus fédérateurs. Et hélas, on s'en éloigne un peu. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler, j'y tiens pour des auditeurs français, à dire que le pays reste encore très cordial. Et d'ailleurs, pour le 4 juillet aux États-Unis, par rapport au 14 juillet en France, ça a très longtemps été beaucoup moins les défilés militaires et beaucoup plus le défilé du petit village avec les pompiers, les enfants. Et c'est en général comme ça qu'on fête les choses. Jaloux du 14 juillet auquel il est assisté lors de son premier mandat, a essayé de faire une parade un peu plus militaire, mais c'est pas trop dans la tradition américaine.
Il a commandé aussi une arche de triomphe qui doit faire 26 mètres de plus que celle qu'avait commandé Napoléon Paris.
Hein,
voilà. Pour rebondir sur la jalousie dont vous parliez, pour terminer très rapidement, ça peut paraître très anecdotique, mais vos bureaux sont juste à côté, pas loin du grand bassin de 600 mètres de long qui est en face du Lincoln Memorial. Il y a eu un débat sur des algues vertes qui pourrissaient complètement ce bassin où Trump avait payé des dizaines de millions d'euros de dollars pour qu'ils réfléchissent le bleu du drapeau américain. C'était pas si anecdotique que ça, je crois, cette polémique qui a ému pas mal de monde, je crois, à Washington.
Je pense qu'il est la manifestation physique du trumpisme dans Washington, quand par exemple il met les lettres Trump sur un centre culturel qui était dédié à Kennedy. Et pendant quelques mois, ça s'est appelé le centre Trump et Kennedy. Depuis, par une décision de justice, ça ne s'appelle plus que le centre Kennedy. Mais ces manifestations-là du trumpisme sont très polarisantes. Il y a des gens qui sont très en faveur et des gens qui sont contre. Et je pense qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Je dirais sur le bassin, la reflecting pool, que oui, c'était une erreur. Et parfois, le président Trump prend certains raccourcis parce qu'il veut que quelque chose soit tout brillant, tout propre, sans trop se fier aux experts qui lui diront que oui, mais si vous mettez ce genre de peinture-là, il y aura des organismes mononucléiques qui vont s'y mettre et ce sera très moche. Il ne les écoute pas trop, c'est dommage.
Merci beaucoup Charles Lichfield d'avoir participé à ce podcast exceptionnel des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous entendez peut-être derrière nous ce son des criquets, des grillons.
Ça rappelle Washington.
Et ça rappelle aussi Washington. Je rappelle, vous dirigez donc ce centre de géoéconomie de l'Atlantic Council. L'Ordre du Monde spécial rencontre Aix-en-Provence, c'est déjà terminé. Écrivez-nous des questions, les sujets que vous voulez qu'on aborde avec Annalisa Capellini, tous les sujets géopolitiques qui nous passionnent au quotidien. On vous répondra, on traitera ces sujets. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine dans l'Ordre du Monde avec Annalisa Capellini, bien sûr, que vous retrouverez. Salut à tous.